C'est pas parce que c'était la longue fin de semaine de Pâques que le monde politique a été mis sur pause. On est quand même en ce moment en campagne électorale. On est dans un dernier blitz. On n'avait même pas connu encore, Jeff, même si les débats sont derrière nous, mm-hmm. les cadres financiers des différents partis.
Et ça, ça a été très critiqué, cette décision de tous les partis politiques de ne pas présenter leur cadre financier avant le débat. Et pour moi, ça a été un échappé majeur des partis politiques parce que dans le plus grand moment de la campagne électorale qui est les débats, un moment démocratique très important, regardez d'ailleurs par 1,2 million de téléspectateurs mm-hmm. au Québec, malgré le fait que le Canadien jouait pour sa survie en série, de ne pas pouvoir parler de chiffres, je trouve que c'est un échappé.
On va jaser de tout ça avec Marc-André Leclerc, qui est analyste politique à LCN et au Journal de Québec, ainsi que directeur principal au cabinet des relations publiques chez National. Marc-André, bon mardi matin.
Bonjour, bon matin.
Merci d'être là, comme toujours, un vrai plaisir. Est-ce que ça t'a surpris, toi, Marc-André, qu'on a vu les débats passer avant de connaître les cadres financiers des différents partis, puis on n'a même pas encore le cadre financier, ça va être aujourd'hui pour le Parti conservateur?
Ouais. Non, ça ne m'a pas surpris. Clairement, on sentait que c'était la stratégie d'un peu tout le monde, là, d'attendre le plus tard possible. Un peu comme tout le monde, ben je suis surpris de ça puis je m'en désole. Là. Peut-être une dizaine de jours, j'ai écrit une chronique dans le journal disant justement là, que c'est le temps que les partis politiques nous donnent leur cadre financier. Si on les prend un peu un par un, là, du côté des libéraux, on comprend pourquoi. Là. Clairement, on pensait, hein, parce que juste pour qu'on soit tous à la même place, durant la course à la chefferie, Mark Carney nous avait dit, moi, je vais essayer là, de, je vais vous présenter un budget équilibré en 3 ans, mais on s'est rendu vite compte, excusez-moi, que c'était pas équilibrer un budget comme dans la tradition. Là.
Ouais.
C'était vraiment dans la définition traditionnelle. C'était plutôt au niveau des opérations. Mais lorsqu'on voit les chiffres en fin de semaine, puis M. Carney l'a déposé samedi. Là, ils attaquent les conservateurs parce qu'ils le font aujourd'hui, mais M. Carney a déballé ça en plein samedi matin, samedi saint. Là. On s'entend que c'est non plus, c'est comme choix de date, c'est pas extraordinaire. Mais moi, où je suis surpris, c'est que M. Carney est plus dépensier que Justin Trudeau.
Oui. C'est quand même assez particulier,
ans.
Là.
Oui, et puis...
Oui, c'est assez particulier.
Puis Marc-André, c'est important de faire la mention pour nos auditeurs. Il a séparé le budget en deux. Le budget ouais. opération, il dit, ben non, ça, je vais être à l'équilibre budgétaire. Les opérations du gouvernement, là, on s'entend, tout ce que le gouvernement doit traiter. Mais on est à 225 milliards de déficit additionnel en 4 ans de Mark Carney dans ce qu'il appelle la tranche investissement. Et là, il se protège en disant « Hey, ça va être la guerre des tarifs, faut garder l'économie. »
Ouais. Ouais, effectivement. Sauf que c'est la même recette qu'avec Justin Trudeau. Là. C'est de dire « On va investir et ça va nous rapporter. » Et normalement, ça va nous rapporter quoi? Des nouveaux revenus. Mais lorsqu'on va voir la colonne des nouveaux revenus pour les 4 prochaines années pour M. Carney, il y a 20 milliards qui sont des contre-tarifs. Donc, ça, il faudra voir ce 20 milliards-là, comment il va se concrétiser s'il est élu à partir des prochains mois. Après ça, c'est 28 milliards de réduction dans l'appareil gouvernemental, mais qu'on n'a pas plus de détails que ça. Donc, c'est ça je pensais qu'on allait essayer, justement, de nous présenter quand même un retour à l'équilibre budgétaire, des dépenses beaucoup moins élevées qu'à l'époque de Justin Trudeau. Parce que, tu sais, M. Trudeau, là, ses derniers chiffres, là, ils datent pas de 20 ans. Ils datent de décembre dernier, du 16 décembre dernier. Mm-hmm. La journée, on se rappellera, là, tragique, où Chrystia Freeland démissionne le matin à quelques heures de présenter l'énoncé économique de l'automne. Mais moi, en fin de semaine, lorsque j'écoutais M. Carney, lorsque je lisais le document des libéraux d'environ 70 pages, je regardais le cadre financier, ben j'avais une pensée pour Mme Freeland. Parce que Mme Freeland, le 16 décembre au matin, lorsqu'elle a démissionné, là, elle parlait de quoi? De rigueur budgétaire, elle laissait faire des gimmicks, tout ça, mais c'est la même continuité là, dans ce cadre financier-là pour les libéraux. Donc, Mme Freeland, qui n'était pas à l'aise à présenter l'énoncé politique de l'automne, si j'étais journaliste, j'irais cogner à sa porte et demander si elle est à l'aise maintenant avec cet énoncé-là. Là.
Ouais.
Également, ce qui est surprenant, c'est qu'en fin de semaine, la journaliste Catherine Lévesque du National Post a révélé à CBC que La plateforme, dans le fond, là, c'est la même plateforme que Justin Trudeau aurait présentée, là. Elle dit que Mona Fortier, qui est une ancienne ministre députée dans la région d'Ottawa, elle travaillait sur la plateforme et, dans le fond, c'est la même plateforme que si M. Trudeau là, avait pas démissionné le 6 janvier.
Hey, Marc-André, à quel point c'est un exercice... OK, oui, c'est un exercice important, mais à quel point c'est un exercice qui est coulé dans le béton? Si tu présentes ce cadre financier-là, ton plan d'attaque, ton plan match, et tu gagnes les élections, à quel point tu es obligé de le respecter pendant ton mandat?
T'es pas obligé.
OK.
Zéro. Mais je veux dire, c'est un contrat moral avec la population, avec les électeurs. Et souvent, t'as des sites web qui sont très bien faits, autant provincial, fédéral, où on suit les promesses électorales et est-ce qu'on les a complétées ou non. Okay. Puis des fois, il y a des gouvernements qui ont des bons pourcentages, qui ont complété ce qu'ils ont dit, ou c'est en processus, ou des fois, il y a la réforme électorale. Là, autant à Québec qu'à Ottawa, on l'a pas fait. La CAQ l'a promis, les libéraux de M. Trudeau l'ont promis en 2015, on l'a pas fait. Fait que ça, c'est dans la case de ceux. Fait que non, il n'y a pas d'obligation. C'est sûr qu'il y a un contrat moral, puis c'est sûr que si tu commences à dire voici mes 50 promesses, puis t'en fais zéro en 4 ans, ben c'est sûr que probablement que la campagne d'après, ça, tu vas te le faire, les gens vont t'en remettre sur le nez. Là, que ouais. Tu t'es fait élire sous de fausses promesses. Mm-hmm. Puis également, il y a le défi. Là. Moi, je m'en rappellerai tout le temps. En 2022, là, j'ai écrit un livre qui s'appelle Confidence politique, où je veux expliquer là, un peu qu'est-ce que font les employés politiques. Et je parle entre autres à Robert Asselin dans mon livre, qui a préparé là, les budgets de Bill Morneau. Là. Donc, 2015, 2016, 2017, à l'époque de M. Trudeau. Et, tu sais, ce qu'il avait mis dans la plateforme en 2015, au niveau des montants, là. Exemple, l'allocation canadienne pour enfants, les libéraux l'avaient, durant la campagne 2015, là, les contributions qu'on remet aux parents, tout ça, ils l'avaient estimé pour environ 16 ou 17 milliards par année. Mais une fois rendu au pouvoir, deux semaines après l'élection, une fois assis avec les fonctionnaires, ils se sont rendus compte que la mesure ne coûtait pas 16, elle coûtait 23 milliards. Okay. Fait qu'il y a aussi, dans les chiffres qu'on nous présente, c'est sûr, quand tu es au gouvernement, des fois tu as des ressources, mais même en élection, les partis politiques n'ont pas vraiment accès au gouvernement, aux fonctionnaires, aux chiffres. Fait que oui, il y a des chiffres qui changent. Là. Ce qui est intéressant, c'est que pour cette campagne-ci, le directeur parlementaire du budget à Ottawa, lui, a remis les chiffres par rapport au déficit pour chacune des années, les projections. Fait que ça, c'est comme les projections de base pour tout le monde. Donc, si on veut comparer les trois parties qu'on a des cadres financiers, on pourra comparer avec les conservateurs dans quelques heures, mais le Bloc québécois sur 4 ans, parce que le Bloc québécois, on fait aussi l'exercice en fin de semaine, il rajouterait 30 milliards sur 4 ans sur la dette. Okay. Les néo-démocrates rajouteraient 40 milliards. Et les libéraux rajouteraient 83 milliards de plus. Qu'est-ce qui était prévu dans les chiffres là, du directeur parlementaire du budget?
Alors, c'est vraiment énorme. Je reviens sur le Parti conservateur. Ils vont présenter leur cadre financier aujourd'hui. Mais jusqu'à présent, quand on fait le calcul des promesses électorales, on arrive à 140 milliards de nouvelles dépenses pour le Parti conservateur. Est-ce que ça va être possible pour eux d'arriver à ce fameux équilibre budgétaire-là? T'es Pierre Poilievre qui dit « Moi, chaque nouveau dollar dépensé, je vais aller faire une économie d'un dollar dans la fonction publique. Mmh. » Mais ça m'apparaît un calcul qui ne pourra pas se réaliser à 140 milliards de promesses?
Oui, bien là, deux, trois choses là-dessus, Jean-François. Tout d'abord, le 140 milliards, ce chiffre-là, c'est le chiffre que les libéraux estiment les promesses de monsieur. OK. Fait que là, c'est ça pour faire attention. Là. En fin de semaine, les libéraux, ils ont sorti un communiqué de presse. Donc, c'est les libéraux estiment que c'est 140 milliards les promesses des conservateurs. Ça va être aussi à confirmer. Parce que là-dedans, c'est rare que tu utilises des... Tu sais, est-ce qu'il faut... On peut... C'est un adversaire qui dit ça. Donc, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. On va le savoir au cours des prochaines heures. Déjà, M. Poilievre, durant la campagne, a quand même ciblé certains endroits où ce qu'elle est coupée. Là. Les consultants, les subventions aux entreprises, l'aide étrangère, les fonctionnaires. Donc, on sait exactement, on sait certains postes, comment ça va se chiffrer à la fin. Également, il y a cette idée-là de dollar pour dollar. Donc, si une fois élu, c'est un ministre, il dit, ben moi, j'ai un nouveau programme à 2 milliards, ben il faut voir qu'il dit dans son ministère où qu'il prend ce 2 milliards-là. Donc, ça va être intéressant. Moi, je ne vois pas, puis je suis pas dans le secret des dieux, là, ils font leurs affaires, les conservateurs, mais Ça va être intéressant, je pense, de voir justement. Ils ont comme pas le choix de nous montrer un chemin vers l'équilibre budgétaire.
Mais justement, est-ce que le cadre financier des conservateurs en étant présenté si tard peut avoir changé dans les dernières semaines selon comment les sondages allaient pis tout ça, ou bien c'est quand même quelque chose qui, même si on le présente aujourd'hui, qui est prêt depuis un bout puis qui change pas vraiment? Là. C'est pas parce que ça va moins bien qu'on va changer des trucs, ou comment ça se situe à ce niveau-là?
Ben effectivement, dans le sens où tu sais, les partis politiques là, ça se fait des mois et des semaines avant. Là. Je vous donne un exemple que moi je connais très bien parce que j'ai travaillé sur la plateforme des conservateurs en 2019 pour cette campagne fédérale là. Fait que là c'est une élection à date fixe, ça avait été déclenché le 11 septembre 2019. En juillet, là, on était en train de décider jour 1, on va à tel endroit, on fait telle annonce. Puis sur le calendrier là, je peux vous dire que à 95%, on n'a pas changé de calendrier. Et la plateforme, juillet, août, un mois avant le début de l'élection, un mois et demi, elle était finalisée. Là. Tu fais des petits ajustements pendant la campagne, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu commences à jouer avec ça, tu commences à jouer avec tous tes chiffres. Là. Donc, tu peux pas... Les partis politiques, heureusement ou malheureusement, durant la campagne, sur les cadres financiers, tu peux rajouter une ligne, tu peux changer des virgules, tu peux changer des chiffres. Tu peux changer des petits pourcentages, mais c'est pas vrai que, mettons, les conservateurs, parce qu'ils disent qu'ils veulent marquer des points, aucun parti politique peut faire de gros changements. Tu peux l'adapter, tu peux la modifier. Dans ce cas-ci, pour les conservateurs, j'ai comme le pressentiment qu'ils voulaient s'assurer de voir un peu ce que Mark Carney allait faire. Parce que le point d'interrogation pour beaucoup de gens qui suivent la politique, cette patente-là de M. Carney nous dire qu'elle équilibrait ça, les budgets opérationnels sur 3 ans. Là, clairement, avec les chiffres qu'on a aujourd'hui, ben depuis samedi midi, clairement, on est loin d'un retour à l'équilibre budgétaire là pour les 4 prochaines années. Juste vous donner un exemple, là, pour l'année qui vient de commencer, 25-26, là, M. Trudeau, en décembre, nous dit qu'on allait faire un déficit d'environ 42-43 milliards. Et là, M. Carney, lui, arrive avec 15 à 20 milliards de plus, là, juste pour la prochaine année. Fait que ça nous montre un peu la différence. C'est un point d'interrogation, M. Carney, ce qu'il allait faire. Là, maintenant, on comprend bien qu'il poursuit là, dans les dépenses sans limite. Là.
Hey, Marc-André, le premier ministre du Québec, François Legault, a senti le besoin de rassurer la population suite à l'annonce de la décote du crédit du gouvernement de la province. T'as pensé quoi de son message?
Ben, il n'y avait pas le choix, hein. M. Legault n'avait pas le choix. Ça aurait été surprenant que M. Legault nous dise, oh, finalement, tu sais, tout ce que j'ai fait, c'est des erreurs, puis tu sais, on recommence à zéro, là. Ils ont comme pas le choix, M. Legault et M. Girard, de défendre, là, ce qu'ils ont fait. Mais il faut bien se comprendre, là. C'est une très mauvaise nouvelle pour le Québec, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour la CAQ, là. Parce que c'est le genre d'enjeu, tu sais, qui est facile à comprendre pour l'électorat. À un an, tu sais, on parle beaucoup de l'élection fédérale, puis dans une semaine, l'élection fédérale va être finie, puis après ça, on va parler de l'élection municipale, puis pas longtemps après ça, on va parler de l'élection provinciale. Puis l'élection provinciale, elle s'en vient extrêmement rapidement. Et pour les gens qui t'écoutent ça, tu sais, t'as pas besoin d'avoir un bac en finance, une maîtrise en économie pour comprendre qu'on était décoté. Ouais. Fait que ça, c'est un mot qui est extrêmement fort. Surtout la dernière fois que cette agence-là nous a décoté, c'était en 1993. Et pour regagner ce qu'on avait perdu en 1993, c'est revenu en 2017. Ouais. Fait que ça fait extrêmement mal au gouvernement, et je pense que le Québec, on n'est pas prêt peut-être à ça, mais on va être pris devant des choix difficiles. Là, parce que, bon, là, c'est une agence de code de crédit. Si on écoute M. Girard, veut se faire rassurant, que lui, c'est son plan, qu'en infrastructure, tout ça. Mais après ça, il y a d'autres agences aussi qui pourraient nous décoter. Ça aussi, ça pourrait faire mal au Québec. Mais c'est comme si au Québec, on est pris du fait qu'on a beaucoup de services sociaux. Les gens sont extrêmement imposés, taxés. Et c'est comme si notre seule façon d'avoir de la richesse, d'avoir une bonne cote de crédit, c'est de taxer puis d'imposer les gens davantage. Mais clairement, on le voit avec l'inflation des dernières années. Même si l'inflation a baissé le mois dernier au pays, l'épicerie, vous voyez sans doute comme moi, 3,9%, ça continue d'augmenter. Ça va pas réduire. Donc, on est pris malheureusement devant des choix qui vont être extrêmement difficiles à l'aube d'une élection électorale dans un an et demi. Là.
Non, exactement. On n'a pas assez développé notre richesse. Marc-André, est-ce que dans les choix difficiles, justement, je termine avec ça, on va avoir repoussé l'échéancier, le fameux calendrier d'électrification des véhicules, des autobus, les sociétés de transport à 10 heures ce matin vont faire une sortie publique commune contre le gouvernement et ses demandes en ce sens-là, parce que ça va leur coûter des milliards de dollars sans nécessairement être certain d'être appuyé par le gouvernement du Québec. Donc, ces genres d'initiatives, il faudra mettre de côté, selon moi.
Ben, il y a beaucoup de points d'interrogation dans ces domaines-là. On le veut également sur les contributions pour les particuliers d'acheter un véhicule électrique, autant du côté de Québec que d'Ottawa. Parce qu'à un moment donné, c'est que quand tu n'as plus les sous, est-ce que c'est le genre de projet que tu es capable de continuer? Là? Même si on est tous là, conscients que oui, il y a des changements climatiques, on est tous conscients que OK, il faut faire notre bout de chemin. Mais rendu là, est-ce que c'est dans... Tu sais, quand tu es rendu que tu n'as plus de sous, tu sais, que tu n'as plus cette capacité-là, quand on voit qu'au Québec, on a été baissé...
Marc-André, quand on ne rénove pas les hôpitaux comme Rosemont-Maisonneuve, voilà, c'est difficile de croire qu'on va rouler en véhicule électrique tout le monde en 2035.
Exact. Puis là, c'est une question de priorité. Puis là, c'est sûr que, tu sais, le deux secondes d'écart, je dirais que c'est difficile pour la CAQ. Mais également, tu sais, là, quand tu regardes les partis d'opposition, là, bon, c'est sûr qu'eux autres, ils se flattent la bedaine, puis ils vont dire, ah, OK, là, c'est pas bon pour la CAQ, puis c'est des mauvais gestionnaires, mais quelles décisions les partis d'opposition, peu importe lesquelles, peu importe la couleur, quelles décisions ces gens-là auraient pris de différer? Est-ce qu'ils n'auraient pas donné des augmentations de salaire? Est-ce qu'ils auraient coupé dans des programmes? Mais c'est ça le problème, c'est que quand on arrive en élection, on veut faire des promesses. Hein, c'est toujours plus sexy donner des chèques aux parents, donner des chèques aux personnes âgées que de réparer nos aqueducs. OK? Ouais. Ça, c'est... Puis les politiciens, là, rénover le sous-sol, là, l'aqueduc, les conduits d'eau, tout ça, c'est pas payant, politiquement. Faut qu'on ait mis des chèques aux gens, des baisses d'impôts. Moi, j'en suis. Je trouve qu'on est, au Québec, hyper imposé, hyper taxé pour souvent des services. Il y a des millions, puis moi je fais partie de ça, des millions de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, mais on paye tous des impôts à la fin de l'année. En plus, on est dans la saison des rapports d'impôts, ça achève bientôt. Mais fait, il y aura des choix à faire, mais est-ce que le Québec, on est prêt à les faire? Est-ce que les partis politiques seront prêts à faire ces choix-là en disant à la population, faut prendre des décisions difficiles? Est-ce que quelqu'un est capable de rentrer en campagne électorale avec ce narratif-là? On va le savoir dans un an et demi.
Marc-André Leclerc est analyste politique à LCN, au Journal de Québec, ainsi que directeur principal au cabinet des relations publiques chez National. Toujours un plaisir jaser actualité politique avec toi, Marc-André.
Merci, toujours un plaisir. Au revoir.
Salut.
À bientôt, Marc-André Leclerc. Très intéressant comme toujours.
Très, très, très intéressant, justement, de voir que la plateforme de... Mark Carney, au niveau du cadre financier, ressemble étrangement à Justin Trudeau. On a juste présenté les chiffres de façon différente.
Ouais, plus ça change, plus c'est...
Pareil!
Hey, Roger Ferland, l'ex-enquêteur OSPVQ, est avec nous en studio et dans les prochaines minutes, on va entre autres jaser des 7 arrestations hier dans un cas de séquestration. Restez là. Jusqu'à 10h.